Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue tout particulièrement aux personnes qui nous visitent ou qui sont là pour la première fois parmi nous. Et en ce début d'année, je voudrais encore souhaiter de vive voix à chacun, à chacune, une bonne année. C'est-à-dire une année où Dieu garde la place d'honneur dans notre vie. Une année où nous grandirons encore dans notre dépendance et dans notre engagement envers lui. Voilà ce qu'est une bonne année. Et qui dit nouvelle année, dit aussi nouvelle série de prédications au pluriel. Et nous commençons avec une série sur l'évangile de Marc. Alors nous n'étudierons pas l'ensemble de cet évangile, mais je n'abandonne pas le projet de prêcher un jour sur un évangile entier. Concernant l'évangile de Marc, j'ai remarqué en consultant les archives de ces dernières années que des quatre évangiles, c'est celui sur lequel j'ai trouvé le moins de prédications dans notre Église. J'en déduis que c'est sans doute celui que nous connaissons le moins. Pourtant, c'est le plus court des quatre. Et pour cette série sur Marc, je poursuis trois objectifs. Le premier, je trouve que cet évangile est un très bon candidat lorsqu'il s'agit de lire un évangile avec un non-croyant. Et l'objectif est qu'en étudiant ce livre, nous puissions nous dire « C'est avec cet évangile que j'aimerais présenter Jésus à mon ami qui ne le connaît pas. » Ça, c'est le premier objectif. Deuxième objectif, lié cette fois au calendrier, eh bien cette série nous prépare à Pâques. Alors je sais, nous venons de fêter Noël, mais Pâques est devant nous. Et tout comme nous nous sommes préparés à Noël, eh bien Pâques, la fête où nous célébrons la résurrection de Jésus, mérite bien aussi une bonne préparation de notre cœur. Et le dernier objectif est qu'en étudiant ce livre, et même si ce n'est que partiellement, nous laissions Christ et l'Évangile être de nouveau au centre de notre vie. Que nous puissions laisser Christ et l'Évangile être de nouveau au centre de notre vie. Jésus n'est pas uniquement celui qui m'accompagne dans ma vie. C'est avant tout celui que je suis appelé à aimer et à suivre. Ce n'est pas Jésus qui me suit, mais c'est moi qui le suis en tant que disciple. Lisons sans tarder le début de cet évangile. Marc chapitre 1, les versets 1 à 13. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Selon ce qui est écrit dans le prophète Ésaïe, « Voici, j'envoie devant toi mon messager pour frayer ton chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert, « Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. » Jean parut, il baptisait dans le désert et prêchait le baptême de repentance pour le pardon des péchés. Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain, en confessant leurs péchés. Jean avait un vêtement de poils de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il prêchait. « Il vient après moi celui qui est plus puissant que moi, et je ne mérite pas de délier en me baissant la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé d'eau, mais lui vous baptisera d'Esprit Saint. » En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix se fit entendre des cieux. « Tu es mon Fils bien-aimé, objet de mon affection. » Aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans le désert. Il passa dans le désert 40 jours, tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages. Et les anges le servaient. Je vous invite à la prière. Notre Père, nous venons de lire ta parole, nous venons de lire ces mots que tu as inspirés à Marc, et nous te prions, Seigneur, que tu nous accordes toute l'intelligence nécessaire pour saisir ce que tu veux nous dire cet après-midi. Et peut-être à titre personnel, Seigneur, ce que tu veux nous dire à nous en personne. Et nous te prions, Seigneur, que par ta parole, eh bien, nous puissions être changés, que nous puissions être convaincus de ce que nous devons changer dans notre vie. Et que Christ puisse briller dans toute sa splendeur alors que nous lisons ce texte, alors que nous nous laissons interpeller par ton esprit. Merci Seigneur de permettre à ce que par ce message-là, eh bien, ta parole, ton message soit clair. C'est ce que nous te demandons au nom de Jésus. Amen. Chez Marc, les premiers mots sont « commencement de l'évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu ». Certains comprennent, c'est ici que commence la bonne nouvelle au sujet de Jésus-Christ. Et nous voyons dans la suite du texte que le récit démarre avec le ministère de Jean-Baptiste qui prépare le peuple à la venue de Jésus. Donc c'est ici que commence la bonne nouvelle au sujet de Jésus-Christ. D'autres comprennent que le mot « commencement » indique que quelque chose de nouveau est initié, comme un nouveau commencement inauguré par la venue de Jésus. Dans tous les cas, nous avons affaire à un point de départ. Et ce qui va suivre concerne une personne très importante. En anglais, une VIP. Une personne très importante. Une personne qui vient avec une bonne nouvelle. Une personne qui est cette bonne nouvelle. Peut-être que nous savons beaucoup de choses à propos de Jésus. Mais cela ne signifie pas pour autant qu'elle est une personne importante pour nous. Ce n'est pas parce que nous connaissons beaucoup de choses sur Jésus qu'elle est forcément importante pour nous. Pourtant, tout dans le début de l'évangile de Marc nous montre combien Jésus est une personne importante. Et j'aimerais pouvoir vous le montrer cet après-midi. D'abord, en commençant par parler de la grandeur de celui qui vient. La grandeur de celui qui vient. J'aimerais ne pas minimiser dans ce texte le ministère de Jean-Baptiste. Mais pour autant, il est frappant de voir qu'il n'est pas la personne la plus importante de l'histoire. On nous parle de Jean-Baptiste des versets 2 à 8, mais ce n'est pas la personne la plus importante de l'histoire. Certes, il a un rôle à jouer dans le plan de Dieu, mais ce n'est pas lui qui va occuper le devant de la scène. Il est là pour préparer le peuple de Dieu à accueillir celui qui vient après lui et qui est plus puissant que lui. Alors voyons comment Marc le présente. Verset 2, selon ce qui est écrit dans le prophète Ésaïe, « Voici, j'envoie devant toi mon messager pour frayer ton chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert, « Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. » Les spécialistes ont distingué dans ces versets que je viens de lire trois références de l'Ancien Testament. Première référence, Exode chapitre 23, verset 20. « Moi, j'envoie un ange devant toi pour te garder en chemin et te faire arriver au lieu que j'ai préparé. » Malachie chapitre 3, verset 1. « Voici que j'enverrai mon messager, il ouvrira un chemin devant moi. » Et troisième référence, Ésaïe 40, verset 3. « Une voix crie dans le désert, préparez le chemin de l'Éternel, faites une route bien droite pour notre Dieu dans les endroits arides. » Trois références à l'Ancien Testament. Et en faisant référence à ces textes antérieurs, eh bien Marc, qui est l'auteur de notre texte, montre que la bonne nouvelle qu'il est en train de raconter s'inscrit dans la continuité de ce que Dieu avait déjà annoncé depuis bien longtemps, plusieurs siècles auparavant. Le Nouveau Testament, ce n'est pas quelque chose de totalement nouveau, sans lien avec le passé. Il y a une continuité, et cette continuité, nous la voyons dès les premiers versets de l'évangile de Marc. Cette voix dans le désert que le prophète Ésaïe avait annoncée, ce messager envoyé par Dieu pour préparer le chemin, est là maintenant. C'est Jean-Baptiste. Et on l'appelle ainsi à cause de son ministère caractérisé par le baptême. C'est ce que nous voyons au verset 4. Jean parut, il baptisait dans le désert et prêchait le baptême de repentance pour le pardon des péchés. Donc si on l'appelle Jean-Baptiste, c'est parce qu'il baptisait. Et nous lisons au verset 5 que les gens venaient au bord du Jourdain. Donc son appel fonctionnait. Les gens venaient à lui pour se faire baptiser. Et vous voyez au verset 5, en confessant leurs péchés. Jean avait vraiment un ministère particulier. Il baptisait des gens, probablement en les plongeant dans l'eau. Mais vous savez, nous n'avons pas de trace d'une telle activité chez un autre prophète de l'Ancien Testament. Est-ce que vous connaissez un prophète qui baptisait avant Jean-Baptiste ? Jean-Baptiste avait vraiment un ministère particulier. Alors on peut se demander, mais que signifiait le baptême alors, si c'était quelque chose qui semblait assez nouveau ? Ce rite qui est en lien avec la repentance. Et je le rappelle, la repentance, c'est le fait de se détourner de ses péchés pour se tourner vers Dieu et ainsi chercher son pardon. Et comme d'autres prophètes avant lui, eh bien Jean appelait le peuple d'Israël à revenir à Dieu sincèrement. C'était vraiment un retour à Dieu pour ce peuple. Et une démarche qui devait s'exprimer de la manière suivante, la confession des péchés, sans doute une confession publique, et puis cet acte symbolique de se faire baptiser comme un acte de purification. C'est de cette manière-là que Jean prépare le chemin pour celui qui vient après lui. Et Jean n'est que le précurseur qui prépare le terrain. Des cœurs bien disposés. Et des cœurs bien disposés pour qui ? D'après la citation d'Ésaïe, pour le Seigneur. Des cœurs bien disposés pour le Seigneur. Si le peuple doit se purifier, si le peuple doit se débarrasser de ses péchés, c'est parce que le Seigneur va venir. Et cela peut faire penser à ce que l'Éternel avait dit à Moïse, il y a bien longtemps de cela. Dans Exode chapitre 19, les versets 10 à 11. Qu'est-ce que l'Éternel dit à Moïse ? « Va vers le peuple, sanctifie-le aujourd'hui et demain, qu'ils nettoient leurs vêtements, donc on voit là des actes de purification, qu'ils soient prêts pour le troisième jour, car le troisième jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur le mont Sinaï. » À l'époque de Moïse, ce que Dieu demandait au peuple, c'est qu'il puisse bien se préparer parce que l'Éternel allait descendre, que le peuple puisse se purifier parce que Dieu allait venir. Eh bien, de la même manière, à l'époque de Jean-Baptiste, les Juifs devaient se préparer pour la venue du Seigneur. Et je ne vais pas trop m'attarder sur l'habillement de Jean-Baptiste, décrit au verset 6, ou sur son alimentation. Simplement, l'élément qui nous intéresse ici, c'est que Jean-Baptiste s'habillait comme, vous le savez sans doute, il s'habillait comme, quel autre prophète ? Élie. Jean-Baptiste s'habillait comme Élie, d'après la description que nous avons en 2 Rois, chapitre 1, verset 8. Et ce n'est pas une fantaisie de la part de Jean-Baptiste de s'habiller comme Élie. Alors c'est vrai que c'est peut-être quelque chose qui n'est plus tout à fait à la mode, un vêtement de poil de chameau et puis une ceinture de cuir, mais il s'habillait comme Élie, et ce n'est pas une fantaisie de sa part, parce qu'il devait savoir qu'il était précisément celui que Dieu avait annoncé. Et qu'est-ce que Dieu avait annoncé par le prophète Malachie ? Eh bien, Malachie, chapitre 3, verset 23, « Voici moi-même, je vous enverrai le prophète Élie, avant la venue du jour de l'Éternel. » Jour grand et redoutable. Malachie, c'est le dernier prophète avant 400 ans de silence de la part de Dieu. Donc le dernier prophète de l'Ancien Testament. Et qu'est-ce qu'il annonce ? Moi-même, je vous enverrai, dit l'Éternel, le prophète Élie. Et ici, Jean-Baptiste apparaît avec cet habillement comme Élie. Eh bien, ce nouvel Élie dont il est question, c'est lui. Mais pour autant, Jean-Baptiste ne se met pas en valeur et ne se met pas en avant. Et c'est ce que nous voyons au verset 7 et 8. Voici ce qu'il prêchait. « Il vient après moi, celui qui est plus puissant que moi. Et je ne mérite pas de délier en me baissant la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé d'eau, mais lui vous baptisera d'Esprit Saint. » Bien que tout ce qui nous est dit jusque-là concernait Jean-Baptiste, notre attention se porte maintenant sur celui qui vient. Et voyez la grandeur de celui que Jean présente comme plus puissant que lui. Et tellement grand que face à lui, Jean se sent indigne. Vous savez, délier la courroie des sandales de quelqu'un, c'était le travail d'un esclave dans l'Antiquité. Eh bien, Jean ne prétend même pas à cela. Il ne prétend même pas pouvoir faire un tel travail d'esclave. Il n'en est pas digne. Il n'est pas digne par rapport à celui qui vient après lui. Et une autre différence de taille, c'est que Jean baptise avec de l'eau dans le Jourdain, alors que celui qui vient après lui baptisera d'Esprit Saint. Et nous en voyons la réalisation quand Jésus enverra à ses disciples le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, comme nous le lisons en Actes chapitre 2. Oui, c'est Jésus qui baptisera d'Esprit Saint. Par tous ces éléments que je viens de rappeler, nous comprenons que celui dont Jean est le précurseur est la personne attendue. Il y a toute une préparation qui se fait et il y a quelqu'un qui va arriver. Et puisque le peuple doit se purifier en attendant sa venue, eh bien cette personne qui doit arriver doit au moins avoir une dignité comme celle de Dieu. Pourquoi le peuple ferait tous ses efforts si la personne qui vient n'est pas, ne serait-ce que, égale à Dieu ? Et dans sa prophétie, eh bien, Ésaïe n'annonce personne d'autre que le Seigneur lui-même. Celui qui doit venir, c'est le Seigneur. Et sauf erreur de ma part, aucun homme de Dieu du passé, que ce soit Abraham, Moïse, Élie ou David, n'ont été annoncés de cette manière, précédés par quelqu'un qui préparait le peuple à leur venue. Aucun de ces hommes n'avait quelqu'un pour les précéder et pour annoncer qu'ils allaient arriver et pour préparer le peuple à leur venue. Et en ce qui me concerne, mais là c'est juste pour la plaisanterie, en ce qui me concerne, personne n'est venu avant moi dans cette église pour vous préparer à ma venue il y a maintenant 3 ans. Mais en ce qui concerne Jésus, sa dignité, son importance, sa grandeur nécessitait au moins que quelqu'un le précède pour préparer son chemin. Je ne sais pas si on a déjà pensé à cela. Mais Jean-Baptiste, qui joue effectivement un rôle important ici, montre toute la dignité de celui qui vient après. Aucun autre homme de Dieu n'avait quelqu'un pour le précéder et pour annoncer sa venue. Mais Jésus, lui, le Seigneur, avait une personne qui devait préparer le peuple à sa venue. Ça dit quelque chose de la personne qui vient après Jean-Baptiste. Est-il possible que dans mon quotidien, j'oublie combien Jésus est quelqu'un d'important ? Qu'il est en soi une personne très importante, la plus importante puisqu'il est le Seigneur. Ai-je dans mon quotidien l'attitude qui convient face à une personne de cette importance-là ? Et si Jean-Baptiste disait qu'il n'était pas digne de délier la courroie de ses sandales, que suis-je censé dire ? Alors évidemment, Jésus m'accueille dans sa grâce dès l'instant où j'ai placé ma foi en lui, mais je ne veux pas oublier combien il est grand. Il n'est pas mon égal, bien qu'il ait accepté d'endosser la nature humaine. Il est le Fils de Dieu, comme Marc l'écrit dès les premiers mots. Il est le Fils de Dieu. Et c'est ce qui va nous être confirmé dans la suite du texte. Et là, j'aimerais m'intéresser à la mission du Fils, les versets 9 à 11. La mission ou le ministère de Jésus. Regardez le verset 9. En ce temps-là, et c'est là que la personne attendue arrive, en ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée. Et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Voici donc la première étape qui amorce le ministère public de Jésus. Jésus part de Nazareth. Nazareth se situe un peu plus au nord du pays d'Israël. Et puis il se rend au Jourdain, un peu plus au sud. Donc il faut imaginer le parcours qu'il fait, afin de se faire baptiser à son tour. Jésus se déplace de Nazareth au nord, vers le Jourdain, au sud. Et vous remarquerez que, contrairement aux autres, il n'est pas indiqué qu'il est venu confesser ses péchés. Il fut baptisé par Jean, et c'est tout ce qu'on nous dit à son sujet. Il n'est pas venu pour confesser ses péchés, contrairement à tous les autres. Marc ne nous donne pas d'explication non plus quant à cette démarche du baptême. Pourquoi Jésus vient se faire baptiser ? Marc ne nous donne pas cette explication. Ce qui est certain, étant donné ce qui se passe ensuite, c'est que Jésus, en venant se faire baptiser, fait la volonté de Dieu. C'est dans la volonté de Dieu, c'est en accord avec ce que Dieu veut, que Jésus vient se faire baptiser. Et il se passe pour lui quelque chose qui ne se passe pas pour les autres baptisés. Et ça, je pense que vous l'avez remarqué. Versets 10 et 11. « Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix se fit entendre des cieux. « Tu es mon Fils bien-aimé, objet de mon affection. » Il se passe pour Jésus quelque chose qui ne se passe pas pour tous les autres. Pourquoi les cieux s'ouvrent-ils à ce moment-là ? Pourquoi l'Esprit descend-il sur Jésus ? Et que signifie la déclaration de cette voix céleste ? Dans ce moment clé de sa vie, de manière publique, Jésus reçoit l'Esprit en vue de sa mission, en vue de son ministère. Et en plus de cela, le Père lui confirme qu'il a toute son approbation. Jésus est le Fils bien-aimé de Dieu. C'est en lui que le Père trouve son plaisir, tout son plaisir. Et cette parole céleste, eh bien, regroupe trois textes de l'Ancien Testament. Le premier texte, dans Psaume chapitre 2, verset 7, où il est écrit « Tu es mon fils, et aujourd'hui je fais de toi mon enfant. » Deuxième texte, Genèse chapitre 22, verset 2, où Dieu dit à Abraham « Prends Isaac, ton fils unique que tu aimes. » Et puis Ésaïe, chapitre 42, verset 1, « Voici mon serviteur, » et tout à l'heure Damaris avait lu ce texte, « Voici mon serviteur, celui que je soutiendrai, celui que j'ai choisi et qui a toute mon approbation, ou ici, toute mon affection. J'ai mis mon esprit sur lui, il révélera le droit aux nations. » Et d'ailleurs, c'est intéressant que dans ce texte d'Ésaïe 42, il est fait mention du fait que Dieu dise « J'ai mis mon esprit sur lui. » Et c'est ce qui se passe lors du baptême. De ces trois allusions, nous pouvons dire trois choses au sujet de Jésus. La première, c'est que la parole qui est dite dans le psaume 2, quand il est dit « Tu es mon fils », était pour le roi qui montait sur le trône d'Israël. Or, Jésus, non seulement légitime roi d'Israël, est le fils de Dieu par excellence, alors que le roi d'Israël ne l'était que par adoption. Jésus est le fils de Dieu par excellence. C'est ce qui le distingue de tous les autres rois. Deuxième allusion, dans Genèse chapitre 22, avec Abraham et Isaac, eh bien, en fait, on mentionne le fils bien-aimé d'Abraham. Le fils bien-aimé d'Abraham, c'est Isaac. Et à ce moment-là, dans Genèse 22, qu'est-ce que Dieu demande à Abraham ? Vous vous souvenez ? De le sacrifier. Le fils que tu aimes, je te demande de le sacrifier. Et là où finalement Isaac a été épargné, Jésus est le fils bien-aimé qui donnera sa vie en sacrifice. Donc lorsque Dieu dit ici « Tu es mon fils bien-aimé », il y a sans doute une allusion à cela. Et puis la dernière allusion est celle d'Ésaïe 42, où débute le premier chant, ce qu'on appelle le premier chant du serviteur de l'Éternel. Et ce renvoi à Ésaïe indique que Jésus, en plus d'être le fils bien-aimé, est le serviteur qui va accomplir la mission que Dieu lui confie. Et progressivement, eh bien, nous découvrons dans l'évangile de Marc que ce serviteur, comme Ésaïe l'a annoncé et dépeint, ce serviteur est un serviteur souffrant. La référence au fait qu'il est le serviteur de l'Éternel, c'est pour dire qu'il est aussi le serviteur qui va souffrir. Lors de son baptême, Jésus reçoit la confirmation qu'il est le serviteur choisi par Dieu pour sauver son peuple. Il y a ici confirmation de sa mission. Et cela se passera par le sacrifice et par la souffrance. Et puisqu'il est celui qui a reçu toute l'approbation de Dieu, cela signifie qu'il n'a rien à se reprocher. Il est le juste par excellence. Il n'a rien à se reprocher. C'est pourquoi il n'a pas de péché à confesser. Et son baptême signifie donc qu'il se rend solidaire des pécheurs. Henri Blocher écrit à ce sujet, « Il prend symboliquement sur lui les péchés symboliquement déposés dans le fleuve par les pénitents. » Les pénitents, c'est-à-dire ceux qui se repentent. Il prend symboliquement sur lui les péchés symboliquement déposés dans le fleuve par les pénitents. Nous ne sommes qu'au début de l'Évangile et nous en savons déjà beaucoup sur Jésus. Rendons grâce à Dieu de ce que Jésus n'a pas reculé devant la mission qui était la sienne. Une mission qui a impliqué de souffrir pour nous. Au contraire, il est venu de Nazareth jusqu'aux eaux du Jourdain, et ce n'était qu'une première étape. Mais il n'a pas reculé devant ça. Et ce qui va suivre, et qui nous est raconté brièvement, montre d'emblée que le ministère de Jésus n'est pas un chemin tranquille. Et j'aimerais souligner justement cet aspect de la puissance du Fils dans les versets 12 et 13. Après avoir vu la grandeur de celui qui vient, la mission du Fils, et bien ici, la puissance du Fils. Contrairement aux évangiles de Matthieu ou de Luc, le récit qui concerne les tentations auxquelles Jésus a dû faire face est très sommaire chez Marc. Vous voyez, c'est juste deux versets. C'est très léger. Je relis ces versets. « Aussitôt l'Esprit poussa Jésus dans le désert. Il passa dans le désert 40 jours, tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. » Certains commentateurs ont relevé que l'adverbe « aussitôt » est caractéristique du style de Marc, qu'il emploie de nombreuses fois dans son évangile. « Aussitôt il se passe ceci, aussitôt il se passe cela. » Et vous le remarquerez en lisant l'évangile de Marc. Et cela donne du rythme dans le récit, avec des événements qui s'enchaînent. Et là, ce qui suit le baptême de Jésus, c'est l'épreuve dans le désert. Et il faut comprendre, lorsqu'on parle de désert, un lieu où il n'y a personne. Et nous sommes peut-être étonnés de lire que c'est l'Esprit qui pousse Jésus dans cette direction, que c'est l'Esprit qui pousse Jésus dans cette confrontation directe avec Satan. Oui, Jésus, Fils obéissant au Père, suit la direction et se soumet à tout ce par quoi il doit passer. Alors oui, si l'Esprit le pousse dans le désert, eh bien il va dans le désert. Même si c'est pour affronter Satan. Et ces 40 jours dans le désert ne sont pas sans rappeler les 40 années du peuple d'Israël dans le désert. Jésus, ainsi, est le nouvel Israël. Et le véritable Israël, celui qui a toute l'approbation de Dieu. Et nous lisons qu'il est tenté par Satan. Et vous remarquez que Marc ne rapporte pas ici les victoires de Jésus. Les autres évangélistes le racontent, mais ici Marc ne raconte pas que Jésus a su ne pas céder à la tentation. Or, il paraît quand même nécessaire que Jésus réussisse l'épreuve pour poursuivre sa mission. Et nous voyons d'ailleurs dans les versets qui suivent que Jésus n'est pas disqualifié. Son ministère se poursuit. Donc cela sous-entend qu'il a réussi. Et chaque fois que Jésus fera face à des démons, il sera toujours présenté comme victorieux. Et ça, nous le voyons dans la suite de l'évangile de Marc. Mais je reviens simplement sur la fin du verset 13. « Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. » Une description étonnante de préciser qu'il était avec les bêtes sauvages. Alors, s'il n'y a pas d'ambiguïté quant à l'idée que les anges se mettent à servir Jésus, la mention des bêtes sauvages est comprise au moins de deux manières différentes, et bien différentes. La première, dans un sens positif. La présence de Jésus au milieu des animaux révèle sa seigneurie. Il est l'homme par excellence qui domine sur les animaux. Et certains vont jusqu'à y voir l'harmonie retrouvée entre l'homme et l'animal, telle qu'elle est décrite par exemple en Ésaïe 11. Vous savez ce texte qui dit que le loup vivra paisiblement avec l'agneau, que l'enfant pourra sans crainte être avec le serpent. Eh bien, certains y voient une allusion ici, au fait qu'il n'y a aucune hostilité entre Jésus et les animaux. Dans un sens plus négatif, ces animaux, d'ailleurs en lien avec le désert, représentent ce qui est hostile. C'est un sens un peu plus négatif. Et cela indique aussi, puisqu'on parle simplement des animaux, eh bien qu'il n'y avait pas d'autres hommes avec Jésus. Il était vraiment seul dans le désert, avec les animaux, mais aussi, et ça c'est aussi un détail important, mais aussi avec les anges qui le servaient. Et donc, la mention des anges nous indique que Jésus n'était pas absolument tout seul. Dans ce ministère qui commence, Jésus sait qu'il peut compter sur le secours de son Père. Et celui qui est plus puissant que Jean-Baptiste est assurément plus puissant que nous tous. Celui qui est plus puissant que Jean-Baptiste est assurément plus puissant que nous tous. Et lui seul a été capable de livrer cette bataille contre Satan. N'est-ce pas merveilleux de savoir que c'est en ce Jésus que nous avons mis notre confiance ? Un Jésus suffisamment fort, suffisamment puissant, et qui peut en plus nous comprendre dans nos luttes et dans les tentations que nous connaissons. Et à ce titre-là, j'aimerais simplement relire ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux écrit. Dans Hébreux chapitre 2, verset 18, au sujet de Jésus, « Car puisqu'il a lui-même été éprouvé dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont éprouvés. » Voilà une parole qui nous encourage. Et dans Hébreux chapitre 4, verset 15, « En effet, nous n'avons pas un grand prêtre qui serait incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous le sommes, mais sans commettre de péché. » Et ça aussi, ça nous rassure. Jésus a été au plus près de nos expériences, mais contrairement à nous, il n'a pas choisi d'écouter le diable. Il n'a suivi qu'une seule voie, celle du Père. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en faisant de nous de nouvelles créatures, Dieu nous a aussi donné la capacité d'obéir comme son Fils, grâce à l'Esprit Saint qui est en nous. Souvenons-nous que Jésus est plus puissant que nous. Nous avons parfois tellement de mal à demander de l'aide. Et je m'adresse notamment aux frères de l'Assemblée. Je suis sûr que certains d'entre nous, quand ils n'arrivent pas à ouvrir ce fameux pot de confiture, vont tout faire pour se débrouiller tout seuls, comme si notre virilité était en jeu. Je ne sais pas si certains se reconnaissent, mais on fait tout. On se croit fort, on peut ouvrir ce pot. Mes amis, face au péché, nous ne sommes pas de taille. Face au péché, nous ne sommes pas de taille. Il faut nous l'avouer. Et je ne m'adresse pas qu'aux frères ici. Ce n'est qu'en nous confiant en Jésus, c'est qu'en appelant Jésus à l'aide dans la prière que nous verrons des victoires. Mais malheureusement, et je le vois aussi dans ma propre expérience, nous pensons être assez forts pour résister au péché. Mais Jésus est plus puissant que nous. Et si vous avez besoin d'aide pour ouvrir ce pot de confiture, faut s'adresser à quelqu'un qui est plus fort que vous, ou plus malin. Jésus est puissant pour nous sortir de là, de nos tentations, de ces moments de faiblesse auxquels on cède si facilement. Mais Jésus est plus puissant que nous. Et c'est ce que Marc nous décrit ici. En ce début d'année 2023, nous devons nous réjouir à la lecture d'un tel texte faisant partie de l'Évangile de Jésus-Christ. L'Évangile de Jésus-Christ, c'est d'ailleurs le titre de notre série de prédications. Personne dans l'histoire de l'humanité n'a eu autant d'importance que celui pour qui Jean-Baptiste a préparé le chemin. Et la première question est de savoir si le Fils de Dieu est aussi important pour nous. Et la deuxième est de se demander si Christ est toujours la bonne nouvelle pour nous. Est-il toujours cette bonne nouvelle pour nous ? C'est lui qui devait venir, c'est lui qui devait mourir pour nos péchés, c'est lui qui devait combattre Satan pour remporter une éclatante victoire. Et là où nous avons échoué, il n'a pas échoué. Au contraire, il a réussi. Et vous vous rendez compte que l'évangile que nous sommes en train de lire, l'évangile commence avec quelqu'un qui réussit. L'évangile commence avec quelqu'un qui est totalement approuvé par Dieu. Et ça ne s'est pas produit depuis la chute. Il y a quelque chose d'inédit ici. L'évangile commence avec quelqu'un qui réussit là où nous avons tous échoué. Alors, rappelons-nous de cela durant cette semaine, durant cette année, que la bonne nouvelle, c'est lui.